ça va, je peux lancer le truc ? Bon, ben, je peux lancer le truc. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir eu la gentillesse d'assister à cette table ronde. Donc on va essayer de parler de quelque chose où on est aux marges et aux frontières, qui est l'endroit dans le fond où la science-fiction se sent le mieux, pour parler de ce qu'on appelle les intelligences non standards, les intelligences qui ne sont pas du tout comme la nôtre, ils ne sont pas, comme on dit, anthropomorphiques. Alors j'ai la chance d'avoir autour de moi un certain nombre de gens qui vont pouvoir exprimer des choses passionnantes sur le sujet. Alors je vais commencer directement à ma gauche par Olivier Paquet. Donc Olivier Paquet, je le connais bien depuis un certain temps. Il a publié sa première nouvelle dans Galaxy et depuis il a continué. Et il a en particulier été l'auteur d'une trilogie de space opéra du Melkin, dans lequel il y a aussi, en plus, s'est rajouté un livre, un young adult qui vient juste de sortir, qui est remarquable. Et c'est vraiment quelqu'un qui, en plus, travaille sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est la synesthésie, c'est-à-dire l'emploi de la totalité des sens pour la communication. On va en parler. On a Laurence Sunner. Alors c'est formidable, on a une table ronde internationale. On a du Suisse, on a du Québécois, on a du bon français de France, on a même du Niçois, ce qui prouve bien qu'on atteint des limites pratiquement non standards. Voilà. Et donc, Laurence, qui est Suisse, donc elle aussi vient de publier une trilogie dont on attend le troisième tome, la trilogie de Quantica, à la Talente, et dans lequel justement les intelligences non standards font leur apparition, mais de manière frustrante, tu nous en parleras dans le prochain tome. Yves Ménard, donc notre Québécois, qui est un des novellistes les plus remarquables que je connaisse, qui a en plus abordé des problèmes d'intelligence non standard dans des choses aussi courtes que des nouvelles, qui est aussi l'auteur d'un sacré paquet de romans. Tu as 18 ouvrages sous ton nom, je crois, et un certain nombre en moitié d'un Laurent McAllister que tu fais avec Jean-Louis Trudel. D'accord. Et je me rappelle en particulier que tu as parlé d'intelligence qui se situait dans les couloirs entre les mondes, dans les mots du tabac. Et ça, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. D'accord. Ludovic, pareil, tu es chez Mnemos, tu as sorti une trilogie qui était Context, qui a fait quand même pas mal parler d'elle au moment où elle est sortie. Tu viens de publier Yellowstone, qui est toujours chez Mnemos, qui est plutôt un thriller policier, SF, etc. Enfin, ça mélange un petit peu tout ça. Tu vas pouvoir nous donner ta vision. Et pour finir, quelqu'un qui est un physicien au CNRS, qui est Eric Pichol, donc qui est un spécialiste de la mécanique quantique, qui a écrit un certain nombre d'essais et qui, on le sait peut-être moins, sous un pseudonyme, a publié une des plus intéressantes nouvelles de hard science que je connaisse dans Galaxy. Et au point que tu n'as publié que ce texte, mais il a été repris dans le best-of. Et en tant que rédacteur en chef, je vais te dire ce que tous les rédacteurs en chef ont envie de te dire. Et la suivante, bordel, c'est quand ? Donc, grâce à ces gens-là, on va essayer d'aborder donc cette problématique de l'endroit où l'intelligence qu'on a en face de soi, l'intelligence écrite dans un livre, cesse d'être une intelligence qui nous ressemble pour être quelque chose de totalement autre, de totalement alien. Alors, parmi les exemples, on cite évidemment tout ce qui est, le Solaris, le nuage noir de Fred Hoyt, un pont sur l'abîme, etc., etc. Il y en a tout un tas. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand on parle d'intelligence non standard, on fait souvent référence, comme exemple, à des choses intelligentes qui ne devraient pas l'être. Des planètes, Solaris, des nuages de particules, des ruches. Le problème, c'est que la simple taille de cette intelligence suffit à induire des effets de perspective qui changent l'approche qu'on en a. Donc, on se dit, c'est totalement non humain à cause de la taille. Mais d'abord, est-ce que ce n'est pas triché ? C'est la première question que je vais poser à Olivier. Est-ce que ce n'est pas triché ? Et surtout, qu'est-ce qui rend une intelligence réellement différente ?
Effectivement, on est confronté, surtout quand on essaye de faire des extraterrestres qui sont plus ou moins individuels, identifiables. C'est-à-dire que le problème qui arrive souvent, et notamment en science-fiction, en série de science-fiction, pensez à Star Trek, etc., c'est-à-dire que quand on a des extraterrestres anthropomorphes, ce sont des masques pour parler de civilisation humaine. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir des... dans Star Trek, les séries d'origine, en fait, on voit des extraterrestres qui sont grecs, soit ça nous rappelle la Terre. Une vraie intelligence non standard, ça devrait ne pas nous rappeler la Terre ni les civilisations qui existent ou qui ont existé. Donc, mais sauf, il y a deux, à mon avis, problèmes. C'est-à-dire que si on est en contact avec ces extraterrestres et qui sont effectivement différents, c'est comment nous, on va pouvoir les aborder. Je m'explique, c'est-à-dire que nous, humains, quand nous explorons un territoire, quand les premiers explorateurs ont été découverts, l'Amérique, etc., ils ont rendu ce territoire qui est dépourvu de noms, ils ont créé des noms, ils ont humanisé le territoire. Même quand on a regardé la Lune, qu'est-ce qu'on a fait finalement ? On a cartographié la Lune en la rendant humaine. C'est-à-dire qu'on a donné des noms aux cratères, des noms aux monts, etc. Nous avons, même quand nous sommes face à l'inconnu, pour arriver à l'appréhender, pour le rendre non problématique, on essaie de l'humaniser. Et on peut imaginer aussi, bon, je l'ai fait sur un texte, c'est qu'une intelligence extraterrestre, si elle rencontrait un humain et qu'elle n'est pas justement humaine, elle va essayer de traduire d'une manière extraterrestre les humains. Donc on est dans un problème quand on confronte un extraterrestre et un humain de la communication et que chacun essaye de ramener l'inconnu à ce qu'il connaît et donc à soi, à ses propres principes. Donc, quand on est auteur de science-fiction et qu'on veut traduire une intelligence non standard, donc vraiment différente, il faut imaginer un extraterrestre qui va penser d'une manière totalement différente d'un humain alors que nous-mêmes auteurs, nous sommes humains. Alors au niveau de la perception de soi-même de l'auteur, bah, évidemment c'est ça qui est amusant à faire en science-fiction. Mais le défi d'auteur, il est là. C'est d'arriver à créer un extraterrestre qui pense le monde à une manière d'extraterrestre et non pas un faux humain, quelqu'un qui traduirait, enfin, évidemment, un extraterrestre qui serait, choisissez, peuple primitif d'Amazonie ou asiatique, enfin des peuples zen bouddhistes, on en a des tapés dans les récits de science-fiction. Mais c'est pas ça vraiment faire un extraterrestre. C'est pas simplement l'inconnu. C'est pas simplement l'étranger. C'est l'inconnu.
Et Laurence, justement, quand on parle d'une intelligence, par défaut, quand on décrit une intelligence, on la décrit comme étant consciente. C'est-à-dire que le principe « je pense donc je suis », il est intrinsèque à toute idée d'intelligence. Mais justement, c'est pas toujours le cas. Ce qui est intéressant dans Solaris, par exemple, c'est la planète qui ne se pense pas en tant qu'entité. C'est la planète qui se pense comme en tant que processus. Toi, tu as eu ce problème-là, puisque je sais, dans ton troisième tome, on voit apparaître une espèce d'intelligence globale de cette façon-là. Tu traduis sa conscience et sa forme de communication comment ?
Voilà, moi, c'est un peu particulier. Donc là, je vais un petit peu spoiler mon tome 3, je suis désolée.
Ah oui, tant pis, hein, c'est fini.
Voilà. C'est qu'en fait, dans mon bouquin, j'essaye d'imaginer une intelligence qui soit par moment individuelle, c'est-à-dire vraiment incarnée, et par moment globale. Et c'était ça un peu mon challenge, c'est-à-dire de comment passer de l'une à l'autre, comment cette constitution de cette entité globale se fait à partir d'expériences d'entités incarnées. Et c'est la problématique que j'ai eue justement dans le tome 3 du bouquin. Pour le reste des bouquins, j'ai essayé d'imaginer ce qui était difficile, c'était effectivement de... Donc mes entités sont conscientes d'elles-mêmes. Par contre, on ne sait pas au niveau de la globalité, quand l'entité devient en conscience collective, elle a une conscience mais qui s'exprime très différemment, comme moi je m'exprime très mal en ce moment, je suis désolée. Mais c'était le challenge, c'était de se dire, nous en tant qu'humains, quand on essaie d'imaginer quelque chose d'autre, on imagine forcément quelque chose, on passe par l'identification, il n'y a qu'à voir simplement quand on essaie d'interpréter les animaux, de comprendre les animaux, on fait une sorte d'identification avec les animaux, on dit ah voilà, etc., c'est le problème de l'anthropomorphisme. Le challenge, c'était justement de se dire comment on pense différemment, comment on peut imaginer ça vu qu'on est humain, vu qu'on est dans ce cloisonnement d'être humain, et que c'est très difficile de sortir effectivement de la façon de penser de l'être humain puisqu'on connaît que cette façon de penser. Donc moi, ce que j'ai essayé d'utiliser, c'est qu'il y a des façons de réfléchir et de penser, d'imaginer les choses qui peuvent être différentes d'individu à individu, même sur la Terre. Tout à l'heure, Jean-Claude parlait au sujet de Olivier de la synesthésie. Moi, j'ai aussi utilisé la synesthésie. C'est une façon, par exemple, de réfléchir qui englobe des sons, des odeurs, des phéromones, des choses qui ne sont pas forcément... ou même une vision qui est beaucoup plus étendue, qui permet de voir certaines choses que nous, humains, ne voyons pas. Et comment, en ayant toutes ces informations à disposition, comment le cerveau va traiter un nombre d'informations beaucoup plus important que l'humain, qui a quand même des algorithmes de compression du cerveau pour pouvoir comprendre la nature autour de nous, c'est-à-dire qu'on voit une table, on la voit au niveau macroscopique, matérialisée. Qu'est-ce qu'il en serait si on voyait, par exemple, tous les constituants élémentaires de la table, en fait. Ça change complètement la notion de perception de la réalité. Donc, en fait, c'est un peu dans cette optique que j'ai essayé d'imaginer mon intelligence non standard. Voilà.
Et justement, c'est une question qui va être peut-être pour toi, mais peut-être aussi pour Yves. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsqu'on crée, on est écrivain, on crée une intelligence non standard, mais on la dote en général d'une caractéristique, c'est qu'elle est aussi curieuse de nous que nous le sommes d'elle. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une intelligence qui n'est pas du tout curieuse de ce qui l'entoure et n'est pas curieuse de nous en particulier, et qui, lorsque l'être humain, d'une certaine façon, rentre en contact avec, le vit comme une pollution? Tu as écrit, Yves, une nouvelle absolument magnifique sur ce thème. Mais comment est-ce qu'on est une intelligence non standard et comment se débarrasse-t-on de la pollution que représente l'humanité?
De quelle nouvelle parles-tu?
Justement, des mots du tabac. Okay. Avec, oui, tu vois, c'est un des bons exemples.
Oui, sauf que dans le cas de cette nouvelle-là, j'avais mis en scène une station relais, une espèce de monde artificiel, qui agit comme escale pour les voyageurs interstellaires et qui doivent se débarrasser des péchés qui les encombrent. Ils doivent aller se confesser. Oui. Et j'ai laissé planer une certaine ambiguïté sur la nature de ces péchés. Est-ce que c'est vraiment surnaturel? Toi, tu as eu une...
Ben moi, je me rappelle en avoir discuté avec toi où tu disais oui. ce sont des parts non humaines que l'on collecte en route et dont il faut se débarrasser.
Oui, on pouvait attraper, justement, c'est ça, des péchés non humains en route aussi. C'était envisageable.
C'est ça, c'était cette notion-là, donc, dans laquelle l'humain, en fait, vivait cela comme une pollution. C'est-à-dire que la rencontre entre deux espèces n'était pas traduite par une curiosité mutuelle de l'un vers l'autre, ou par une prise de conscience, mais plutôt par une espèce qui est consciente, qui regarde et qui fait, et une autre qui, à la limite, passe majestueusement en s'en foutant complètement, mais qui laisse derrière elle des traces. Mm-hmm. Et ça, c'était intéressant parce que tu renversais un petit peu la perspective.
Oui. Il y a toujours quelque chose de difficile là-dedans parce qu'on veut décrire quelque chose de majestueux, d'un peu lointain, et on finit par en arriver à évoquer très simplement. On triche. Parce que c'est incompréhensible, c'est le mystère. Et qu'est-ce que j'ai vu derrière la porte? Je n'oserais vous le dire, c'était trop terrible. J'ai rien dit. Alors, bon, on est sur la corde raide. Parce que si l'illusion se brise, le lecteur se rend compte qu'on lui raconte des balivernes. Mais il faut l'amener à cette idée de découverte. Parce que c'est tout l'aspect de l'émerveillement devant la nature, devant ce qu'on ne comprend pas, mais qu'on s'apprête à comprendre. Mais comme on, en tant qu'écrivain, on peut pas vraiment trouver, on amène le lecteur à cette impression-là. Je suis sur le point de comprendre quelque chose. Et là, l'auteur dit, oui, c'est fini.
Ben, un certain Michel Jury, dont tu as sans doute entendu parler, a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Les yeux géants », dont la dernière phrase dit « La suite ne peut pas être écrite avec des mots humains ». Et puis démerdez-vous avec ça. Mais c'est ce que j'ai trouvé de plus proche, effectivement, de l'intelligence non standard et de l'indicible. Parce qu'à partir du moment où on est dans le non-humanoïde et dans le non-dicible, on est justement dans, comme disait Wittgenstein, ce qui ne peut pas être dit, ne doit pas être dit. D'accord ? Si on ne peut pas, ben, il faut arrêter d'en parler. Par contre, ce dont on peut parler, c'est de l'effet que ça nous fait à nous. D'accord ? Et je vais faire le tour, Ludovic. Toi, essayons de le voir alors là d'un point de vue un petit peu différent. Comment ça se passerait ? Comment pourrait-on imaginer un thriller ? Comment pourrait-on imaginer, disons, un problème avec une véritable enquête sur laquelle deux morales totalement incompatibles, deux humanités de façon de penser totalement incompatibles s'affronteraient. Ça a été fait par exemple par Catherine Rush dans sa série là, comment s'appelle-t-elle là ? J'ai publié ça chez Bragelonne, les deux premiers dans lequel effectivement des extraterrestres échangent avec la Terre. Ce sont des gens vaguement humanoïdes, mais leur façon de penser est tellement différente de la nôtre que leurs lois s'applique à l'intérieur du système solaire pour ce qui les concerne, parce qu'il y a des accords là-dessus. Ce qui fait qu'on peut violer la loi extraterrestre sans le savoir, simplement parce qu'elle est totalement incompréhensible pour nous. Le simple fait de marcher dans une forêt, par exemple, ou de toucher le cadavre d'un extraterrestre, peut être un viol tellement invraisemblable qu'on risque d'être condamné d'une façon totalement inimaginable. Et alors toi, imagine que tu doives écrire, je ne sais pas, une histoire avec une enquête parallèle faite par deux intelligences dont l'une est indicible, ou l'une n'est pas humanoïde. Comment l'aborderais-tu ?
Je te remercie, Jean-Claude, d'avoir posé cette question.
Je suis désagréable comme garçon.
Comme en politique, on remercie d'abord, et puis pendant qu'on réfléchit à la réponse. Que te dire ? Si tu veux bien, je ne vais pas rester sur une notion d'extraterrestre, mais d'intelligence artificielle au sens où on le conçoit, notamment dans ce salon. Je me suis posé la question, et ça sera peut-être une suite de mon bouquin qui vient de sortir. Là. L'intelligence artificielle, notamment numérique, informatique, comme on l'imagine pour beaucoup, ce qu'on a pu voir aussi dans des films, le fameux HAL de 2001 et choses comme ça. Très souvent, et moi le premier, on a tendance, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à y mettre des prismes moraux, notamment, de civilisation, de ce qu'on connaît, et puis de projeter ça sur ce qu'on imagine d'une nouvelle entité. Je me suis posé la question donc, de cette entité artificielle qui prend conscience, qui s'auto-initie. Il n'y a pas de personne appuie sur le bouton. Simplement que la capacité énergétique et informatique de cette création prend forme un jour. Et cette intelligence informatique donc pourrait très bien non pas avoir une morale, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, ça ce sont nos prismes à nous. Juste parenthèse, aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais aujourd'hui en Europe, dans ce salon, et qu'est-ce qui est bon et mauvais aujourd'hui en Syrie avec le fameux État islamique dont on entend parler tous les jours. Les notions de bien et de mal ne sont évidemment pas les mêmes. Elles sont totalement relatives. Même la notion de vie et de mort, malheureusement. Et donc, une intelligence artificielle pourrait très bien déjà se suffire à elle-même, c'est-à-dire ne pas avoir d'autres enjeux ou d'autres buts que d'exister, voilà, d'être présente, d'exister, sans forcément rentrer dans une notion de concurrence avec l'humanité. Après tout, si elle estime qu'elle peut se perpétrer et progresser tout en protégeant l'humanité, pourquoi pas, et puis tout en la supprimant, pourquoi pas non plus. Donc il n'y a pas de notion morale. Et si on raisonne d'une manière informatique, est-ce qu'elle ne pourrait pas analyser froidement l'histoire humaine avec les masses d'informations qui sont maintenant disponibles avec le big data et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et puis décider d'affecter un 0 ou un 1 à tel type d'émotion, tel type de situation, tel type de solutions qui ont été trouvées par les hommes dans l'histoire, et puis se faire sa propre morale à partir d'une analyse purement froide, mécanique, mathématique des événements. Et donc à partir de là, encore une fois, la relativité de la morale et donc de notre abord vis-à-vis de cette intelligence va être complètement faussée. Mais malheureusement, je n'ai pas ni une prétention scientifique et ni un recul extraordinaire pour plus me prononcer là-dessus. Et voilà, c'est une réflexion que je me suis posée de toute façon, mais sur laquelle je suis en réflexion, on va dire.
Ce qui m'interpelle dans ta réflexion, c'est que, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres intervenants, on décrit une intelligence non humaine, donc une intelligence là, comme étant la seule de son espèce. Ou tout au moins comme étant une intelligence décorrélée d'autres intelligences du même genre. Typiquement, le Solaris, c'est une planète vivante, c'est la seule, et dans le livre, on ne la voit pas communiquer avec qui que ce soit. Donc, la prise de conscience d'une communication, c'est quand l'humanité arrive. Parce que quand on est tout seul, on ne communique avec personne, par définition. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a, entre guillemets, un troupeau, ou, je sais pas, une association, un conglomérat, une civilisation d'intelligence non humaine ? On parle d'intelligence artificielle dans ce cas particulier. Il y a un problème que ça soulève. Les intelligences artificielles, elles sont lentes ou elles sont rapides. Quand on a un processus de pensée qui est 1 million de fois plus rapide que le nôtre, quelle est la communication qui peut s'instaurer ? Quand on a une intelligence de pensée qui fonctionne à un niveau quantique, à un niveau actuellement avec les qubits superposés, etc., comment peut-on simplement imaginer d'avoir une quelconque intervention vis-à-vis de ces gens-là, sachant que leur taille, leur vitesse de pensée ou leur lenteur de pensée empêchent même ne serait-ce que toute prise de conscience d'une communication possible. Alors moi, je vais poser, il me reste Eric là-bas au fond. Toi, tu es un spécialiste de physique quantique. Est-ce que la physique quantique, à l'endroit où elle en est, ne permet pas d'imaginer des superpositions de modes de pensée, des superpositions d'états qui seraient complètement différentes du binaire ou du binaire complexe que sait faire l'humanité?
Là, c'est difficile de te répondre en physicien. C'est une question métaphysique. La mécanique quantique est un superbe outil qui a permis de développer des formalismes qui permettent de décrire des choses qu'on a bien du mal à décrire en langage naturel. On peut, pourquoi pas, imaginer effectivement de l'appliquer à toutes sortes de fantasmes métaphysiques, donc pourquoi pas celui-là, mais on n'arrivera pas pour autant à démontrer ceci ou cela.
Mais la science-fiction, la question de la métaphysique de la science-fiction est une question qui nous anime déjà depuis un certain temps.
Bien sûr.
Donc oui, et qui, sur lesquelles on n'a pas encore tranché, hein, je tiens à le dire. Et donc la situation est quand même un peu compliquée. Mais toi, justement, ta vision de physicien serait quoi ?
Je suis tenté de te répondre plus en épistémologue qu'en physicien. Le physicien décrit le monde tel qu'il est, et le monde, je veux dire, c'est pas intéressant. Si, évidemment, c'est passionnant. On peut pas consacrer sa vie à ce genre de choses, mais c'est pas le sujet ici. Si on parle en termes d'intelligence et de communication, puisque tu as fait le lien, il me semble que la première remarque de scientifique, si je mets ce chapeau, c'est que l'intelligence standard, par définition, le standard, c'est nous. L'intelligence standard, c'est la nôtre, et l'intelligence non standard, c'est celle avec laquelle on a du mal à communiquer. Quand on rencontre une intelligence standard, c'est, d'une manière ou d'une autre, plaquer notre propre intelligence sur la sienne, en tout cas se la représenter comme suffisamment similaire avec notre propre intelligence pour qu'on puisse parier sur le fait que nos mots, nos représentations permettent une communication, permettent un échange et nous permettent de comprendre ce qui se joue dans cette intelligence. Et puis parfois c'est pas le cas. Tu donnais l'exemple de Solaris. Solaris est effectivement un objet très intéressant. C'est une planète pensante. D'un point de vue épistémologique, c'est presque encore plus intéressant. Je pense que le roman de Stanislas Lem est un roman épistémologique. Parce que le personnage principal du roman Solaris, c'est pas Solaris, c'est la solaristique. Stanislas Lem ne nous met pas du tout dans la peau de Solaris. Il nous met dans la peau de chercheurs qui sont dans une station spatiale autour de Solaris, qui essayent de comprendre ce qui se joue, qui essayent d'entrer en communication avec Solaris, et qui échouent lamentablement. Qui échouent lamentablement parce que la science ne marche pas. Ils essayent toutes les recettes que la science a pu développer, pas spécialement quantique dans ce roman-là, mais
envoyer des suites de nombres,
parier sur. Et puis ça marche pas parce que c'est pas reproductible. On fait deux fois la même chose, on n'a pas le même résultat. Quand on a un résultat qui est vaguement reproductible, il est pas robuste. On change un tout petit paramètre, ça change complètement la réponse. Et en fait, la science telle qu'on la connaît, notre science ne fonctionne pas face à cet objet. Et à partir de là, on est totalement démuni et cet objet apparaît comme non standard. Je suis tenté d'ajouter que, alors ça c'est un cas extrême avec une intelligence qui est effectivement totalement différente de la nôtre, mais c'est un problème qui se rencontre en permanence en art science-fiction quand on essaye de parler de science. Alors l'art science-fiction, ça peut être quelque chose qui est à la limite de la vulgarisation, on peut faire passer des concepts, mais ça c'est pas très très intéressant. Jouer avec des gadgets, jouer avec des idées, faire passer des messages, c'est important, ça peut être un rôle de la art science-fiction, mais c'est pas un enjeu littéraire très très intéressant. Ça peut être aussi essayer de nous faire partager ce qui se joue dans la science, l'émotion de la découverte, l'émotion de la création scientifique, se mettre dans la tête d'un véritable créateur, pourquoi pas d'un génie. Et là, ça devient un véritable défi pour l'écrivain. Parce que le génie est aussi quelqu'un qui nous est complètement étranger. Nous sommes tous... Il y avait une table ronde tout à l'heure sur la science-fiction anti-intelligent ou lire de la science-fiction anti-intelligent. Je pense que tous les gens qui sont là sont des gens qui sont forcément cultivés par définition. Vous êtes des lecteurs intéressés par la littérature. Donc on est tous dans le même sac. Je serais très surpris qu'il y ait des gens illettrés ici et je serais très surpris qu'il y ait des génies universels parmi nous. Faire passer dans un roman la communication avec quelqu'un d'assez bête, à la limite, c'est pas très difficile. Il suffit de flatter le lecteur et de le mettre dans le camp du gars intelligent. L'identification marche bien. Et c'est facile de mépriser quelqu'un de bête. Arriver à mettre le lecteur dans la peau de quelqu'un de supérieurement intelligent, c'est un défi qui est beaucoup, beaucoup plus grave. Je pense à un roman récent de Kim Stanley Robinson, qui est le rêve de Galilée, qui essaye de nous faire partager les aventures de Galilée et l'exaltation de la compréhension progressive de choses par Galilée, et qui, alors que Kim Stanley Robinson est un auteur de hard science que j'admire beaucoup, qui est d'une précision remarquable, qui est toujours parfaitement documenté, qui arrive à... c'est presque l'archétype de l'auteur de science-fiction aujourd'hui. Il nous fait un roman à la Kim Stanley Robinson, il est parfaitement documenté, il nous montre l'Italie du XVIIe siècle de façon très détaillée, c'est un roman historique super, on apprend des tas de choses sur Galilée, sur l'époque, sur sa fille, sa femme, ses domestiques, et au moment où on arrive à l'instant qui serait véritablement intéressant du point de vue justement, de cette communication avec quelque chose qui est, sinon non standard, en tout cas complètement différent de l'expérience du lecteur de base, à savoir la vraie illumination, la vraie création, la vraie compréhension de quelque chose par un génie universel, mais il échoue lamentablement. Et cette difficulté à décrire la communication avec une intelligence très différente de la nôtre est tout aussi grande quand on parle de gens très différents de nous, même humains.
D'accord. Mais donc on crée, quand on est écrivain de science-fiction, on crée cette espèce de sentiment d'étrangeté par des histoires de taille, par aussi des histoires de contexte. L'intelligence artificielle étant a priori non affective, on la bloque dans un certain contexte dans lequel les gens n'ont pas l'habitude de travailler. Effectivement, on introduit ça. Le génie est un autre exemple d'aller à la marge. Mais, par exemple, il y a quelque chose qui, moi, en tant qu'informaticien, m'intéresse. Actuellement, de plus en plus, on développe des façons de penser pour les machines, des successions d'algorithmes basées sur des formes de pensée non standards qui sont, je ne sais pas, les algorithmes génétiques, les algorithmes de type ruche, les algorithmes par superposition, les algorithmes par contrainte d'état, enfin, il y a tout un tas de choses. Et à ce moment-là, on a face à soi un programme qui, d'une certaine façon, réfléchit, disons, manifeste une certaine forme d'intelligence pour produire des résultats qui sont le résultat d'un processus, sauf qu'on ne sait plus les tracer de manière complète. On sait tracer le fait que le programme s'est bien comporté, mais on ne sait pas comment il a fait, ou plus exactement, pour savoir comment il fait, il nous faudrait quelquefois plusieurs milliers d'années. Tout est tracé, mais la compréhension pas à pas demande un temps absolument phénoménal. Et là, on a des choses. Alors, je vais me tourner vers Olivier, parce que lui, il a l'habitude du monde politique, donc il a effectivement une situation qui est intéressante. Est-ce que, justement, un parti politique qui est le résultat d'un ensemble d'éléments non traçables, se comportant d'une façon apparemment intelligente, mais avec un niveau qui est quelquefois difficile à comprendre pour nous, est-ce que ce n'est pas une forme d'intelligence non standard dont on n'arrive pas à tracer le processus ?
Il y avait longtemps, l'une des idées marrantes, c'est de se dire finalement, un gouvernement, il fut un temps du temps de la monarchie, on disait un bon gouvernement se mesurait au fait qu'il n'avait pas agi. Ne pas agir était, ça veut dire, il n'avait pas été utile d'agir, donc c'était un bon gouvernement. Dans nos sociétés complexes, évidemment, c'est plus vraiment possible. Il y a une théorie que j'aime beaucoup, qui est une sorte de théorie du fer à cheval qui va rejoindre ce que l'on dit, c'est-à-dire que finalement, l'action politique sur la question de qu'est-ce que gouverner ? Ça, c'est une question qui est très complexe en sciences politiques. Qu'est-ce que gouverner ? On ne sait pas vraiment ce qu'est gouverner. Mais on essaye d'approcher un peu ce que ça peut être et de se dire, il y a l'action politique, le début, on fait une loi, on vote une loi, et puis ensuite, ça passe dans la société. Et que quand ça passe dans la société, les individus, les acteurs politiques, les acteurs sociaux vont réinterpréter la loi à leur avantage. Les exemples, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire quand vous avez une directive de l'éducation nationale, ce qu'en font les professeurs à la fin, ça n'a souvent rien à voir avec le projet initial. Et l'idée du fer à cheval, c'est qu'on a ça et on a une sorte de chaos qui est en train de s'organiser avec des acteurs qui vont atteindre une position d'équilibre, c'est-à-dire qui vont arriver à gérer la réglementation et vivre bien avec, jusqu'au moment où ça va encore, le chaos va augmenter et où ça va devenir ingérable. Et à ce moment-là, l'action politique va revenir pour remettre de l'ordre dans cette situation chaotique. Et donc, on a une sorte de fer à cheval où l'action politique revient à la fin quand il s'agit de remettre de l'ordre dans une situation chaotique. Mais l'essentiel d'une loi, l'essentiel de la vie d'une loi, de l'action politique, c'est ce qu'en font les individus. Et ça, c'est une loi policière, tout ce que vous voulez. C'est pas juste j'applique ce qui est dans la directive qui était du ministère. Un, parce que chaque ministère a aussi ses propres contraintes. C'est-à-dire que l'ancien ministère de l'équipement, tout ça, ce sont des diplômés de certaines écoles qui ont leur propre schéma de pensée, donc qui vont les mettre. C'est déjà des entités en soi. Un ministère, c'est une entité en soi qui est une intelligence non standard. C'est des choses, il y a des phénomènes, l'étude des politiques publiques, c'est d'essayer de voir comment ça fonctionne. Il y a c'était dans les années 80, il y a une des théories, c'est la trash can théorie, c'est-à-dire qu'il existe des institutions qu'on appelle anarchiques. Et l'exemple typique d'une institution anarchique, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on a des gens qui changent souvent de poste. On ne sait pas quelles sont les missions et les objectifs. Et en même temps, on prend des décisions. On ne sait pas très bien quels sont les problèmes. Et puis, on a des décisions à la fin. Et souvent, on se rend compte que c'est un peu comme si les problèmes, les moyens de résoudre, tout ça a été mis dans une poubelle. Et puis qu'on tirait tout ça et ça donnait une solution qui souvent n'avait rien à voir avec le début. Et donc, on arrive sur la question de la traçabilité des intelligences artificielles. C'est justement l'éducation nationale est une bonne intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a au début et on arrive à voir à l'arrivée quelque chose qui marche. C'est-à-dire que quand même l'éducation nationale fonctionne. On n'est pas assez... Mais comment, pourquoi, par quel chemin, personne n'est vraiment capable de savoir. Parce que chaque acteur a ses propres manière de penser, les inspecteurs ont leur propre manière de penser, l'administration a sa propre manière, les professeurs eux-mêmes ont leur propre manière, et tout ça doit gérer ensemble.
Ça fait deux personnes entre Eric et toi, vous parlez de cette notion de traçabilité. Et c'est vrai que ce qu'on appelle une intelligence standard, c'est une intelligence dont on est capable de tracer le processus ayant amené à l'état dans lequel on se trouve. Lorsqu'on fait une intelligence non standard, on a quelque chose dans lequel on dit ça sort d'on ne sait quoi, c'est exprimé d'on ne sait comment. Et je veux dire, ça a un effet qui est non mesurable et on ne sait même pas quel est l'effet pour l'intelligence en question. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces intelligences-là, en science-fiction, fabriquent en général des objets extraordinaires. Fabriquent des ponts, par exemple, comme dans ton roman, et des trucs qui sont en orbite, tu sais, qui sont trucs gigantesques. Et on se dit, mais ça sort d'où ? Qu'est-ce qu'ils en font ? Ça sert à quoi ? Puis à la limite, quelquefois, on ne peut même pas y rentrer. On a un mal fou à comprendre la logique qui permet d'y aller. On sait qu'il y en a une, parce que ce n'est pas un objet naturel, mais quelquefois on s'interroge. Et à un moment donné, on se dit, ok, j'ai la matérialisation du résultat d'une pensée, mais je ne sais pas quoi en faire. Et comment fait-on passer, toi justement, dans ce cas particulier, comment fait-on passer ce sentiment qu'il y a des gens qui ont fait des trucs, mais on ne sait pas pourquoi ? Bah, tu l'as fait. Comment
oui,
as-tu
mais
fait ?
Moi, je sais ce qu'il y a derrière, donc c'est un peu... je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Est-ce que tu peux juste la reformuler un tout petit peu d'une manière
plus concrète ? Tu mets dans ton livre un artefact gigantesque venant d'une intelligence différente. Maintenant, il est là, cet artefact. L'être humain l'explore, mais qu'est-ce qu'il en tire de l'intelligence qui l'a faite ? Il n'en tire rien.
Non.
Il est frustrant, c'est ça. Et ça, c'est cette frustration qui m'intéresse.
Alors oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'humain se trouve confronté à quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut pas étudier. C'est un peu comme Solaris, c'est-à-dire qu'il essaie de le soumettre à des investigations scientifiques. Et bien sûr, il n'y a aucun retour parce que cette forme d'intelligence ne passe pas par le langage scientifique. Donc comme dans Solaris, il y a toutes ces expériences. Et pour finir, quand il y a un semblant de communication, l'humain ne le voit pas. Parce qu'il n'est pas apte à le voir, parce qu'il le pense en termes de, justement, de rationalité, de but, c'est-à-dire il y a forcément un résultat, on part d'un point A pour aller à un point B, etc. On a besoin de rendre les choses systématiques dans leur case, etc. Effectivement, ce que je trouvais intéressant dans ce bouquin, c'est de se retrouver confronté à quelque chose, de l'étudier d'un point de vue scientifique, de le soumettre à des expériences. Et pour finir, en fait, la communication, si elle intervient, va se passer par quelque chose qui est complètement différent du langage scientifique, de l'analyse, etc. Et moi, c'est ce que je trouvais très intéressant. C'est pour ça que j'ai adoré Solaris. J'ai aussi aimé Nuage Noir dans un petit peu une moindre mesure, parce qu'on a aussi un peu cette idée. C'était de comment faire quand l'autre... s'oppose, en fait, à l'analyse. C'est-à-dire que comment établir un dialogue ? Est-ce qu'on peut établir un dialogue ou pas ? Est-ce qu'on peut nécessairement avoir une communication ? Ou ça doit passer par des biais qui ne sont absolument pas appréhendables par l'humain ? Et tout à l'heure, on parlait de physique quantique, et moi, j'ai imaginé dans mon tome 3 une intelligence qui fonctionne en probabilité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un résultat. C'est-à-dire que ça reste en mode de statistique, de probabilité. Donc, comment communiquer avec une intelligence probabiliste ? C'est hyper perturbant. Parce qu'en fait, nous, on veut des résultats, on veut quelque chose de concret, on veut une matérialisation de l'objet. Et là, on se retrouve dans les probables. On reste dans les probables et on vit dans un univers, on réfléchit dans un univers fait de probables où le résultat ne compte pas, en fait, n'a pas vraiment d'incidence. Donc, dans cette idée-là, c'est... Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question.
Oui, tu réponds à la question parce que une des caractéristiques de l'intelligence dite standard, c'est sa capacité, notre capacité à prendre des décisions. En fait, on ne se sert de son intelligence que pour prendre des décisions.
Mais si on reste en mode quantique, les décisions ne sont pas nécessaires. Si tu t'imagines une civilisation qui reste en mode quantique, que le processus est en cours, il n'y a rien qui décohère. C'est-à-dire que le truc reste en état de superposition, en fait. Bah, comment tu veux communiquer avec ça ? C'est amusant. Enfin, l'idée, moi, je trouve ça drôle. Mais même certaines... Enfin, je veux dire, dans la réflexion humaine, tu as parfois des personnes qui réfléchissent... Enfin, je ne sais pas, ça vous arrive à tout le monde. C'est-à-dire des personnes qui réfléchissent d'une façon extrêmement séquentielle. Et quand tu as le malheur de ne pas réfléchir tout à fait comme ça, mais plutôt en mode gros bordel, c'est très, très difficile d'expliquer, en fait, comment tu fonctionnes et comment tu arrives à un résultat. Moi, j'ai eu ce problème de toutes mes études. Là, je m'excuse, je parle un petit peu de moi. Mais les gens ne comprenaient pas comment je fonctionnais. Et c'était j'étais une intelligence non standard. C'est con. Hein. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, il y a un espèce de... Tu dis, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas comment vous arrivez à ce résultat. Pourriez-vous expliquer ? Eh bien non, je suis désolée. Je ne sais pas comment ça... Ça fonctionne par association d'idées. Voilà.
Mais justement, on a cartographié les différents processus dits intelligents. Et il y a des intelligences... Il y en a, je crois, 8 ou 9 qui sont recensés en tant que principaux. Et il y a des secondaires qui sont des croisements. Et tu as des gens qui font de l'intelligence de retence ressentie, de l'intelligence sociale, de l'intelligence multiplexe, de l'intelligence holistique, de l'intelligence séquentielle. Et c'est certain que tu mets un séquentialiste avec un artiste, tu vas avoir un mal fou. Tu mets un joueur d'échecs de haut niveau, qui est quelqu'un qui a l'habitude de faire des espèces de sauts de pensée sans être capable de les tracer, avec quelqu'un qui dit « Attends, moi, je veux quand même le faire marche par marche, escalier par escalier », le dialogue n'est pas possible.
Bah, disons que tout à l'heure, tu parlais de la synesthésie. Moi, j'ai ce problème en tant qu'enfant, c'est que je voyais les choses en couleur et je pensais que les autres aussi. Et quand je parlais des chiffres, par exemple, moi, je voyais que les couleurs ou je voyais des formes. Et on m'a fait passer pour attardé.
T'as un certain
et c'est
qui...
assez drôle, ouais. Quoi, parce que ça peut avoir des conséquences inimaginables. Et là, tu dis, mais même au sein de l'humain, je veux dire, on a tellement de problèmes à se comprendre déjà entre chaque individu. Donc, chacun, on est un peu une utilisation non standard, à part si tu rentres vraiment dans la norme et que tu suis une trajectoire extrêmement définie. Mais autrement, on est tous mystérieux. On n'a pas cette conscience collective, on n'a pas cette empathie qu'on peut imaginer sur une civilisation comme, par exemple, dans Quantica. On est tous des mystères, des îles isolées pour chacun d'entre nous, donc c'est très difficile de se comprendre. Au niveau de la définition, quand on parle d'une chose, souvent la définition, il faudrait déjà définir les termes très précisément pour que chacun les comprenne. Il y a tellement de malentendus, je veux dire, dans la communication humaine, elle passe par les malentendus. Donc déjà, je trouve que c'est, en tant qu'humain, on a déjà, au niveau de la communication, de la compréhension, c'est déjà pas piquer des vers.
C'est exact. Et il y a d'ailleurs un exemple, dans un livre que Yves a coécrit. Donc sous le pseudonyme de McAllister, qui s'appelle Suprématie, où, se sachant condamné, un anneau d'artiste va exprimer son sentiment par rapport à cette mort qui leur arrive, chacun utilisant son propre langage d'artiste. Et il y a quelques pages que je trouve personnellement absolument admirables, décrivant comment ils voient leur mort, ils la transcendent en disant au moins qu'il en reste quelque chose qui est la forme d'expression que nous avons. Et aucune de ces formes d'expression n'est standard. Mais parce qu'elles sont chargées d'une émotion que nous pouvons comprendre, elles ont une valeur d'intelligence. C'est-à-dire que leur intelligence est évidente, elle est claire. Mais elle n'est compréhensible, n'est formulable que pour les gens qui ont ce talent. Et donc là, tu as réussi, enfin vous avez réussi, puisque vous étiez deux quand même, il faut s'y mettre à deux, je crois, pour faire un truc comme ça. Mais vous avez réussi à exprimer quelque chose qui est un indicible, et qui est vraiment l'indicible de sa mort prochaine, par tout un tas de formes simultanées, c'est quand même un exercice. Ben, tu as fait comment, en fait ?
On essayait, quand on faisait un space opéra, on se disait, bon, qu'est-ce qui est le space opéra? C'est l'aspect opératique, c'est les décors. Alors, on voulait faire des décors grandioses. On voulait que quand il y avait des scènes, ça soit quelque chose de spectaculaire. Et quand on a conçu, en fait, parce que c'est ça, cette image de la ville d'art, c'est à la base un calembour vaseux. C'est parce qu'on s'est inspiré d'Elisabeth von Harbour et on a fait Isabelle de la ville d'art.
Ben voilà une forme d'intelligence, le calembour, par exemple, qui est totalement non standard.
Oui. Et on a dit, mais qu'est-ce que ça serait la ville d'art? Et puis là, on a dit, oui, c'est une chaîne d'habitats orbitaux et chacun est dédié à un certain groupe d'artistes, ceux qui sculptent les cristaux de neige... Il y a bien, je crois, un orbita 3 gros
oui,
là-dedans.
C'est-à-dire qui fait de la cuisine qui est remarquable.
Qui fait de la cuisine remarquable.
Mais comment décrit-on sa mort sous la forme d'un dernier repas, par exemple?
Oui, ben,
comment peut-on avoir cette idée-là?
C'est que C'était un peu... Ils étaient dans une situation où ils savaient qu'ils allaient tous se faire détruire l'un après l'autre et qui, dans ce cas, ils essaient de décrire leur mort, mais de la transcender aussi en faisant quelque chose d'extraordinaire, en enregistrant la destruction, parce que c'est ça, la scène de la destruction de cette chaîne d'Orbita est elle-même une œuvre d'art. C'est ce qu'ils ont appelé une œuvre d'art totale, et je ne me rappelle plus combien de temps ça dure, mais il y a, entre autres, la liste de toutes les personnes qui meurent dans l'attaque lancée par les gros méchants de la série. Et ils ont essayé, peut-être dans certains cas, de nier. C'est aussi une négation. C'est aussi, on fait une œuvre d'art, il va rester quelque chose, même si elle se fait détruire, le fait de l'avoir créée. Alors, parfois, c'est une sublimation de leur mort. Parfois aussi, c'est peut-être un peu plus terre à terre. C'est peut-être plutôt que de se trancher les veines et d'attendre et de voir la fin comme ça. On crée jusque dans ces derniers instants et on s'arrange, on filme la destruction. C'est aussi un cri de rage. C'est aussi une pulsion de dire regardez ce qu'on est, ce qu'on peut faire et maintenant ça prend fin. Je crois que on voulait pas consciemment, je crois, dire quelque chose sur une approche non standard. C'est peut-être instinctif qu'on s'est trouvé à faire ça, à parler de cette... Bien, c'est un peu la pulsion de l'artiste. Je me dis, oui, je recherche l'immortalité par mes œuvres. Bon, c'est vain, mais...
Mais c'est une intelligence, l'intelligence artistique, qui justement oui. a amené ça. Il y a une chose que tu as dit, et qu'Olivier a dit aussi à sa façon, c'est que la rencontre avec une intelligence non standard nécessite une transcendance, d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, il ne se passe tout simplement rien. Mm-hmm.
Il faut pas oublier que, en termes d'intelligence, on a toutes sortes de niveaux... Génétiquement, on descend de colonies de cellules. Et on est donc, en fait, je veux dire, quand je dis « je », mes organes n'ont pas tous la même fonction. Ils agissent de concert, sauf pour certaines cellules cancéreuses, peut-être réparties ailleurs, qui, justement, doivent être supprimées par le reste de l'ensemble, sinon ça tombe en morceaux. Mais même à l'intérieur du cerveau, le cerveau n'est pas un tout unifié. Il y a des éléments cognitifs qui ont tous, en même temps, l'illusion d'être un. Et ils disent tous « je ». Mais en fait, je devrais dire « nous », parce qu'on est plusieurs. Je pense à autre chose en même temps. Il y a des aspects, il y a tout ça. Ça s'illusionne. Ça dit « je » au lieu de « nous ». Et de la même manière que des groupes fonctionnent de façon collective, de la même manière qu'il y a des ministères et des nations, mais qu'il y a des groupes à l'intérieur des nations. Alors, tout ça, c'est une espèce de soupe où tous les niveaux interagissent ensemble. Et si on prend un ensemble plus vaste qu'un seul individu, là, c'est collectivement une certaine intelligence, mais même, j'ai oublié qui disait « je contiens des multitudes ». Nous sommes
tous... C'est Walt Whitman, je sais, oui. Ouais.
Ce que tu dis sur les groupes, finalement, c'est dans toutes les théories sur l'identité, l'un des éléments importants, c'est à partir de quand une différence est importante. Parce que finalement, dans un groupe, nous vivons dans des groupes où il y a des champs différents, mais ce n'est pas forcément important. Et où ça n'a pas de sens de considérer que cette différence a une importance. Donc le groupe naît à partir du moment de la référence par rapport à l'autre, c'est à partir de quand une différence est importante. Et c'est là qu'on peut avoir des choses, des groupes qui sont différents, justement. Mais c'est pas. Si on regarde un groupe, si on regarde par exemple en France, prenons le cas des Français par rapport aux francophones, ou quelque chose comme ça, à partir de quand il y a quelque chose qui fait une différence entre nous et les Québécois, et que ça fasse sens. C'est pas...
De mon point de vue, c'est à partir du moment où vous commencez à vous en griller une. Vous êtes tous des fumeurs, c'est épouvantable.
Et justement, pour essayer de conclure, avant de laisser la parole à la salle, puisqu'on me fait signe qu'on approche de la date, est-ce que justement, on n'a pas un moyen de passer à l'intelligence, entre guillemets, non standard, l'intelligence transcendante, simplement en passant, en transformant l'être humain unique en un gestalt qui fonctionnent d'une certaine façon. Ça a déjà été fait par Theodore Sturgeon à une certaine époque, hein, avec les plus qu'humains cristal qui songent. Enfin, il y avait toujours ce travail de, on arrive à se rassembler et l'intelligence du petit groupe et devient d'une hauteur telle qu'on ne, enfin, qu'elle change de paradigme. Mais justement, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas lever la tête et trouver des intelligences qui attendent qu'on se réunissent un petit peu entre nous pour enfin commencer à dialoguer avec eux. La science-fiction en a plein des comme ça. Elle nous a ramené des civilisations qui disaient ben, « Il est quand même temps que vous vous mettiez un petit peu à parler entre vous. Au moins maintenant, quand vous vous comprenez bien, on est capable de parler avec vous. »
Là, ils vont se trouver confrontés au réseau et plus à l'humain. Donc c'est une intelligence collective artificielle. Donc, c'est...
Non, c'est... Non. Alors là, c'est intéressant, justement. Est-ce qu'une intelligence de groupe ni l'individu. À partir de quel moment le groupe ni l'individu ?
On parle d'individu, mais il y a une autre conception qu'on néglige souvent, c'est la personne. La personne se définit justement qu'elle existe parce qu'elle est dans un réseau. C'est la différence entre l'individu est conçu comme justement, finalement, on essaye de trouver
individuel
coupé de tout lien. Or, notre vie en tant qu'humain, c'est d'être des personnes, c'est-à-dire nous existons. Bon, j'ai écrit une nouvelle dans Vampire à contre-emploi où je montrais justement des individus qui n'existent que parce qu'ils ont des contacts Facebook et que ce vampire du futur qui est une intelligence artificielle pompe tous les contacts d'un individu. Il lui reste plus que, et donc, en pompant les contacts d'un individu, cet individu cesse d'exister puisqu'il n'est plus il n'existe plus aux yeux de ses amis. Donc ça, c'est aussi le... Moi, je crois plutôt... J'aime pas vraiment insister sur la question de l'individu. Je conçois plutôt que nous sommes des personnes et que finalement, nous sommes plutôt définis par tout l'ensemble de notre histoire d'individus. Là, oui, notre histoire d'individus qui fait que nous avons rencontré des tas de personnes, nous avons lu des tas de livres, nous avons vécu des tas de choses qui nous ont connectés à notre environnement. Et c'est ça qui nous fait en tant que personnes. Donc c'est pour ça que le réseau nous constitue.
Je pense qu'il nous constitue, mais à un moment donné, l'intelligence artificielle, on ne sait pas comment elle va fonctionner vraiment. C'est-à-dire, comment elle va fonctionner. Il y a eu cette discussion l'autre jour sur comment fonctionne, comment on comprend l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Je crois que à un moment donné, ça va nous échapper. Comment les processus fonctionnent ?
Ça nous a déjà échappé.
Ça nous a déjà échappé. Donc, est-ce que ça va vraiment être à l'image de l'humain, quoi ?
Ah non, clairement non.
Non.
Mais non, clairement non. J'ai eu personnellement à étudier, j'ai très vite renoncé, des dumps d'intelligence décisionnelle. Et c'est beaucoup trop compliqué de comprendre comment ils y sont arrivés, alors que ça paraît tout à fait logique une fois qu'ils y sont arrivés. Mais comprendre le processus qui leur a permis d'y arriver prend un temps absolument infini. Et la seule chose qu'on peut valider, c'est que l'outil est bon. En fait, on ne peut pas prouver qu'un gâteau est comestible à moins de l'analyser. Sauf si on admet que on a fait uniquement avec des produits qui sont de bonne qualité. Et à ce moment-là, on accepte un résultat parce que on part du principe que la farine est de bonne qualité, que les œufs, on les a récupérés ce matin au marché et qu'ils étaient frais. Donc, ça marche. Mais en fait, on n'a pas fait l'analyse du gâteau lui-même, molécule par molécule, pour dire que c'est inoffensif. On ne l'a pas fait. On n'a pas le temps. Ce qu'on accepte, c'est le processus qui nous amenait là. Et un jour, on tombe sur une intelligence qui ne fait pas ça, on ne saura pas quoi dire. Il y a des... Alors, on me fait signe... Il nous reste 5 minutes à peu près, ou 5-10 minutes, s'il y a des questions à la salle. Est-ce qu'il y aurait d'abord une intelligence non standard qui aimerait s'exprimer pour nous donner son point de vue ? Il y en a certainement, mais ont-elles envie de communiquer ?
Rigole pas, il y a un prix de littérature japonaise de science-fiction qui est ouvert aux intelligences extraterrestres et artificielles. C'est-à-dire que si un jour un ordinateur ou un extraterrestre veut écrire un texte de science-fiction, la seule contrainte, ce qui est plus complexe, c'est que ça doit être écrit en japonais. Et à ce moment-là, ça sera possible qu'il soit lauréat du prix. Donc il peut y avoir une intelligence non standard ici.
Donc je vais me tourner vers les intelligences standards de la salle. Effectivement, oui.
Je voudrais que la jeune dame qui est sur le podium se mette d'urgence en relation avec le ministère de l'Éducation nationale français.
Bonjour. Moi, j'ai une question qui est assez basique, ça peut paraître idiot, mais si on parle d'intelligence non standard, donc de base, c'est des choses qui sont tellement étrangères de nous qu'on ne les comprend pas. Mais déjà, est-ce qu'à la base, on est capable de les repérer ? Puisque, justement, par définition, c'est pas nous. Donc, ça se trouve, on est déjà en contact avec des intelligences non standards et on s'en rend juste pas compte.
Oui, alors, ça, c'est une question, et c'est une question extrêmement frustrante quand on écrivait. Tiens, je vais répondre, ça vous ennuie pas. Moi, j'ai écrit une nouvelle sur ce sujet-là, qui est une nouvelle, en fait, qui m'a valu de me faire engueuler par un certain nombre d'amis qui sont des spécialistes de SF, parce que la nouvelle, c'est simplement qu'il y a une physicienne sur Terre qui découvre qu'il existe une espèce de réseau de particules absolument immense, de plusieurs centaines de millions de kilomètres, qui occupe pratiquement la moitié du système solaire, et qui ne pèse rien, qui pèse 16 grammes. D'ailleurs, la première phrase, ça dit « Dieu mesure 700 millions de kilomètres de haut, 700 millions de kilomètres de large, et il pèse environ 16 grammes. » Et le truc, c'est qu'on a ça, et la seule chose qui nous permet de nous dire que ben, ça n'est certainement pas qu'un ensemble de points, c'est que c'est tout simplement en train de se barrer. Et que c'est resté pendant très longtemps là, et qu'à un moment donné, ça a décidé de partir. La simple fait qu'il y ait cette décision-là prouve que ben, si ça se trouve, il y a quelque chose. On n'en est jamais totalement sûr. Et à partir de là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Sachant qu'il est en train de se barrer, il sera parti mercredi, quoi. Donc, on n'a pas le temps de construire ni un quelconque dialogue. Qu'est-ce qu'on fait ? Et d'abord, est-ce qu'on fait quelque chose ? Et bon, j'ai essayé d'apporter ma propre réponse dans l'histoire. Et je me suis fait engueuler parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais c'est pas vrai. La science-fiction aurait inventé un truc où on aurait trouvé un moyen de lui parler, on aurait établi... » Non, moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Et on m'a dit « Ben, du coup, c'est pas de la science-fiction. » Ben non, c'est pas vrai. C'est de la science-fiction, c'est de la science-fiction. Simplement, on considère qu'on a quelque chose, éventuellement conscient ou non, qui nous pose des problèmes, qui nous oblige à nous poser la question. Mais la seule interaction qu'on peut avoir avec ce truc-là, c'est de lui faire coucou quand elle s'en va. Pour moi, c'est la seule chose qui est possible. Et pour avoir vécu, pour avoir élevé deux jeunes filles qui sont passées par un stade dit d'adolescent, je sais qu'à un moment donné, la communication avec une intelligence non standard se traduit par des choses extrêmement primaires qui consistent, par exemple, à mettre la table et à remplir le truc de nourriture. Et ça s'arrête là.
Je suis tenté de donner un autre élément de réponse. Là encore, en puisant plutôt dans une expérience épistémologique que dans la science-fiction. Mais le problème que vous posez est un problème omniprésent. On vit dans un monde infiniment complexe, qu'on comprend de façon très imparfaite, et on a des habitudes de pensée. C'est-à-dire qu'il y a en permanence des tas de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Après qu'on les a vues, c'est évident pour tout le monde. Donc, il est évident pour tout le monde qu'il y a quelque chose à comprendre là, qu'il y a quelque chose à penser. Dans le vocabulaire de Kuhn, c'est une révolution scientifique. On change de paradigme. On était dans un paradigme qui nous proposait des schémas de pensée qui nous permettaient de voir un certain nombre de choses, de comprendre un certain nombre de choses. Il y a des questions qui se posent, d'autres qui ne se posent pas. Il y a des choses qui, j'allais dire, nous crèvent les yeux, en tout cas qui sont là et que personne ne voit, jusqu'à ce que quelqu'un, à un moment ou un autre, les repère, mette des mots dessus, mette une idée dessus, exprime cette idée. Et à partir de là, ça devient d'abord une question pour les chercheurs qui développe des outils pour penser ça, pour le dire. Les chercheurs développent des outils conceptuels, les écrivains le digèrent progressivement, le font passer. Dans un premier temps, c'est de la hard science fiction, puisque c'est le titre de cette table ronde, à savoir qu'on a des gens qui essayent de trouver des mots pour dire des idées encore très compliquées que personne ne comprend. Et puis progressivement, à mesure que les outils sont de plus en plus sophistiqués, que les mots disponibles sont de plus en plus connus, bah ça dérive vers les auteurs de science-fiction plus habituels, puis vers la littérature générale. Et au final, tout le monde, jusqu'aux enfants des écoles, comprend ces idées-là et n'imagine même plus qu'on ait pu ne pas voir ces choses-là. Et toute l'histoire de la pensée humaine, toute l'histoire de l'intelligence humaine, c'est l'histoire justement de ces révélations que quelque chose qui ne nous semblait pas, sinon intelligent, en tout cas relevé de notre intelligence, méritait un travail intelligent de notre part, en fait, si, méritait d'être travaillé. Et à chaque fois qu'on ouvre les yeux, à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte, à chaque fois qu'il y a une révolution scientifique dans ce vocabulaire de Kuhn, l'intelligence humaine s'étend un peu plus et s'étend à de nouvelles choses et on va un peu plus loin.
Je crois qu'on va avoir le temps pour deux questions peut-être. Ça va pas être... Il y en a une au fond et une... On arrête déjà ? Bon. Bon, bah écoutez, je suis désolé. Effectivement, le problème, c'est qu'on effleure. Hein. On est réellement dans la frustration de dire on sent qu'il y a quelque chose et on aimerait pouvoir vous en parler et vous le faire sentir. Donc, bah, on espère avoir réussi au moins à vous faire sentir qu'il y a quelque chose. sans pouvoir les décrire. Merci.